Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir ensemble contre le chômage. Ce soir, nous recevons Bernard Friot. Bernard Friot, qu'on ne présente plus, qui est professeur de sociologie à l'Université de Nanterre. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, nous vous avons invité, évidemment, puisque l'actualité est brûlante et que la réforme des retraites est en passe d'être adoptée. Alors, elle a été votée par l'Assemblée nationale en première lecture. Est-ce que, selon vous, cette réforme est justifiée ?
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Non.
Alors bon.
C'est pas ici qu'on va dire qu'elle est justifiée.
Pourtant,
elle n'a surtout aucun fondement parce que certains disent qu'il faut une réforme. Hein. C'est pas la bonne, mais il en faut une. Non, c'est pas la bonne et il en faut pas. C'est ça qu'il faut dire. Mais,
il en faut pas, on pourrait aussi améliorer le système.
Ah,
parce que réforme, c'est pas forcément toujours négatif.
Oui, c'est ça. Mais il faut. Si. Dieu merci, le mot réforme est maintenant clairement connoté. Chacun sait que réformer, c'est changer pour pire, alors que, effectivement, au départ, réformer, c'était changer pour mieux. Ce qui, maintenant, nous permet, sur la base de cette conception désormais péjorative du mot réforme, de remettre en circuit le mot révolution, qui me paraît plus adapté à la situation actuelle de prise de conscience forte par nos compatriotes des impasses du capitalisme.
Alors même si je vais me permettre d'utiliser un mot aussi connoté parfois négativement, serait-il possible d'avoir une sorte de pédagogie, donc des différentes réformes qui sont succédées depuis 10 ans quant au régime des retraites et au changement de sens qu'elles impliquent?
Oui, depuis beaucoup plus que 10 ans, hein, parce que en permanence on nous dit que la réforme n'est pas faite, mais ça fait depuis 23 ans qu'on est en réforme, puisque la première mesure a été d'ailleurs celle qui a le plus d'effets négatifs, c'est l'indexation sur les prix, et indexé sur les prix, c'est donc en 87, c'est ce gain. Ensuite, c'était un règlement, Balladur en fait une loi quinquennale en 93, et Jospin en 98 en fait une loi définitive. Cette indexation sur les prix, c'est pas seulement le fait que les pensions liquidées sont indexées sur les prix, avec ce que ça suppose de dérive progressive du niveau de vie des pensionnés relativement à celui des salariés actifs, mais c'est aussi le fait que quand on calcule la pension, et ça on l'oublie beaucoup trop, les salaires pris en référence qui vont servir à calculer la pension sur les 25 meilleures années sont indexés sur la hausse des prix depuis qu'ils ont été touchés. Supposons que ce soit pour une retraite prise en 2010, un salaire de 1975 ou de 1980, eh bien, il faut bien sûr l'indexer. On ne prend pas sa valeur nominale en 80. Depuis 30 ans, les salaires ont augmenté et ils ont augmenté plus vite que les prix. Et en indexant sur les prix, on a un salaire de référence qui est très inférieur à ce qu'il serait si on l'indexait sur les salaires. Et du coup, c'est ce qui fait que la pension... c'est ce qui est la mesure qui est la plus
discriminante.
Oui, celle qui a le plus décéléré le mouvement des pensions. Bon, les pensions n'ont pas baissé, mais leur augmentation n'est pas du tout ce qu'elle aurait été si il n'y avait pas eu la réforme. Donc c'est déjà depuis 23 ans hein, qu'on est en réforme. Alors cette réforme, dans quel sens ? Dans le sens de passer du salaire continué au revenu différé. Enfin, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup dans mon bouquin et qui est un peu central.
Je me permets de rappeler en fait que Bernard Friot vient de publier aux éditions La Dispute un très intéressant ouvrage qui s'appelle « L'enjeu des retraites ».
Est-ce qu'on peut dire que ce dont vous parlez à l'instant n'est pas, comment dire, ne fait pas partie d'un ensemble un peu plus vaste qui consiste par exemple à ne plus indexer l'augmentation des prix sur l'augmentation des salaires comme c'était le cas avant, c'est-à-dire en fait à déconnecter à la fois le revenu du salaire tout simplement tel qu'il était.
Alors on a supprimé ce qu'on appelait effectivement l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire le fait que l'inflation était donnait l'occasion d'en permanence réaugmenter les salaires. Cette pratique a été supprimée au début des années 80. Ça fait partie des éléments de ce qui a entraîné la modération salariale. La modération salariale qui est en réalité un pillage salarial, hein, puisque les salaires sont passés de 70% du PIB à 60% seulement, et le profit de 30%, 40% entre 1980 et aujourd'hui. Ce pillage salarial, bien sûr que la réforme des pensions fait partie, hein, puisque en augmentant plus le taux de cotisation patronale, hein, le taux de cotisation patronale est gelé pour la pension du régime général depuis 1979 et pour les régimes complémentaires depuis 1995. C'est-à-dire que le mouvement de croissance de la part des pensions dans le PIB a été assumé sans aucun problème tant qu'une partie de la croissance annuelle a été affectée à une hausse du taux de cotisation patronale. Depuis 15 ans, non seulement ce mouvement est interrompu, mais pire, nous avons une baisse des cotisations patronales sur tous les bas salaires, puisque le salaire au SMIC, par exemple, les cotisations patronales au régime général sont complètement exonérées. Ce qui veut dire que pour un salaire égal au SMIC, ce n'est pas 26% du salaire brut qui va à la cotisation vieillesse, mais 10% seulement. Hein. Donc nous avons un mouvement d'accaparement de toute la croissance par le profit qui a généré la crise que l'on sait. Et un des éléments essentiels de ce mouvement, c'est le gel du taux de cotisation. Et le gel du taux de cotisation met en difficulté les régimes. Du coup, les réformateurs disent « Mais vous voyez bien qu'il faut sauver les régimes en réduisant les droits pour adapter les dépenses à des recettes qui ne progressent pas, puisque toutes les gains de productivité et toute la croissance, parce que la croissance, ce n'est pas que les gains de productivité, vont au profit. »
Parce qu'en fait, il faut rappeler que un des arguments des promoteurs de ces gels de cotisation ou baisse de cotisation patronale pour les bas salaires, en fait, c'est de 1 à 1,6 fois le SMIC, je crois, en fait, était censé créer de l'emploi. Est-ce que cela a été le cas ?
Non, pas du tout, pas du tout.
Et on entend dire aussi que cela est une sorte d'aspiration, de trappe à bas salaire.
C'est-à-dire bien sûr, ça a un effet forcément négatif sur les salaires, puisque quand un employeur veut passer d'un salaire de 1 à 1,2 SMIC, il y a la hausse d'abord de 20% du salaire direct, mais il y a aussi le fait que le taux de cotisation, qui n'était que de 10% au niveau du SMIC, va passer à 12 ou 13%, et donc la hausse est plus forte. D'où ce qu'on appelle effectivement une trappe à bas salaire. Dès lors que vous exonérez de cotisation les bas salaires, vous enfermez les titulaires de bas salaire dans leur bas salaire.
Question quand même. Quand même, on est dans une concurrence internationale, c'est la mondialisation, et puis, ma foi, il y a des efforts de compétitivité à faire, c'est indéniable. Et donc, on peut se demander si finalement, Mme Parisot ne parlerait pas au nom d'une sagesse qui vaut pour l'ensemble des Français, puisque Nicolas Sarkozy, finalement, reprend à peu près son discours. Qu'est-ce que vous répondez aux promoteurs de cette réforme à leurs arguments, hein. Nous sommes quand même dans un monde de concurrence et nous devons faire des efforts de compétitivité.
L'essentiel, ça Michel Husson l'a très bien montré, hein, l'essentiel de nos partenaires commerciaux sont les pays européens. Hein. Trois quarts de notre commerce se fait avec l'Europe et dans le cadre de l'Europe. Et tous les pays européens agitent la contrainte de la compétitivité pour réduire les salaires chez eux, ce qui bien que les marchés, le marché européen se rétracte partout et que nous ne trouvons plus de marché pour nos exportations. La, 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 la très très faible croissance européenne, hein, comparée aux USA par exemple, cette très très faible croissance depuis trop d'années s'explique en partie par cette invocation de la compétitivité et cette recherche de la compression des coûts salariaux invoqués au nom de la concurrence mondiale, qui est d'abord une concurrence intra-européenne qui fait que tous les pays européens vont dans le mur en réduisant chacun leur marché intérieur.
Et pour rebondir sur la question de Ludovic, en fait, la concurrence, même en Europe, il y a une concurrence fiscale, enfin, il y a tout un tas de politiques qui font que, en fait, certaines entreprises n'ont-elles pas quelque part, parfois, l'obligation de modérer, entre guillemets, le coût du travail. Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, tout ce système de concurrence et de mondialisation, est-ce qu'il ne nuit pas à sa façon au système de solidarité que sont la sécurité sociale, les retraites, etc. Est-ce qu'on peut développer sereinement un système progressiste de retraite par répartition, de santé publique, etc., dans un tel cadre ? Est-ce que c'est parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient que dans le cadre actuel de concurrence, de compétition internationale, qui en fait s'apparente parfois à de la guerre économique, ben, il n'est pas possible de faire mieux. Il y en a qui le croient en tout cas.
Oui, mais c'est pas d'abord la... C'est pas... La concurrence est elle-même la conséquence d'autre chose. La concurrence telle qu'elle s'exprime, la concurrence intercapitaliste, c'est la conséquence d'un mode de production qui est fondé sur la valeur travail, qui évalue les produits en fonction de leur durée, leur temps de travail moyen nécessaire, sous la dictature du temps, nous réduit à une situation de force de travail sur un marché. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Vouloir réduire la compétition intercapitaliste et les conséquences totalement dramatiques qu'elle a, sans s'attaquer à la logique même du capital dans ses deux dimensions, droit de propriété lucrative d'une part et marché du travail d'autre part, c'est une illusion, c'est une chimère.
Alors qu'est-ce que vous appelez droit de propriété lucrative ?
Mais le droit de propriété lucrative, c'est le fait d'avoir un patrimoine qu'on ne consomme pas pour en tirer un revenu. C'est très différent du droit de propriété d'usage qui est le fait d'avoir un patrimoine qu'on consomme. J'ai une maison que j'habite.
Ce serait une rente alors, quelque part ?
Droit de propriété, enfin sa forme traditionnelle, c'est la rente foncière. Le droit de propriété lucrative ou immobilière, c'est le fait d'avoir un immeuble ou un terrain qu'on n'utilise pas pour le louer. Mais la forme décisive aujourd'hui de la propriété lucrative, c'est l'accumulation financière dans des titres financiers. Et cette propriété lucrative, c'est une des impasses du capitalisme. Hein. On voit très bien que les investisseurs qui sont censés investir à partir de l'accumulation de titres dans des portefeuilles, ces investisseurs n'investissent pas. Hein. Le marché financier sont prédateurs, ils ponctionnent. La BNP, etc., ponctionne de l'argent beaucoup plus qu'il n'en verse hein, dans les entreprises. Et donc, nous avons précisément avec les pensions, c'est ça qui pour moi est décisif, hein, que la retraite, c'est une solution, hein, alors qu'on la présente toujours comme un problème. Nous avons avec les pensions un mode de financement qui nous montre que nous pouvons parfaitement nous passer des marchés financiers. Les marchés financiers, nous avons vis-à-vis d'eux un rapport qu'on pourrait dire de religieux, c'est-à-dire qu'on les considère comme un mal, certes, mais nécessaire, qu'on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, en 2008, quand nos gouvernants ont sauvé la mise des actionnaires, nous avons fait des manifs pour protester contre la façon dont on les sauvait. Mais il n'y a pas eu de manif pour dire « mais laissez-les crever ». C'est-à-dire que nous sommes, alors qu'il fallait les laisser crever, nous aurions beaucoup gagné à les laisser crever. Nous sommes dans une attitude de croyance religieuse, hein, dans le fait que c'est ça la vraie religion. Hein, ce n'est pas la burqa ou le préservatif du pape. Hein, c'est ça, la croyance religieuse dans le fait que les marchés financiers, les investisseurs, comme on dit, certes sont dégueulasses, etc., mais sont nécessaires. Ils sont des parasites totalement inutiles. Et c'est ce que montre précisément la façon dont nous finançons les retraites. C'est pour cela que la bataille des retraites doit être menée d'une façon beaucoup plus offensive que le fait de dire, par exemple, nous avons 260 milliards de capitaux, de financement, pardon, que les capitalistes voudraient récupérer. Défendons la répartition contre la capitalisation. C'est vrai, on ne peut pas être contre un tel mot d'ordre, mais vous voyez bien qu'il est défensif. Et quand on se bat en défense, forcément, il faut vraiment... Même si on gagne, ça veut dire qu'on n'a rien, gagné du tout. Il faut avancer des pions, au contraire, sortir cette bataille défensive, passer une bataille offensive sur la base du même constat. Il y a 260 milliards d'euros qui, par la cotisation sociale, échappent à l'accumulation financière. Et qui montre que pour financer des engagements aussi massifs que les pensions, 13% du PIB, 260 milliards d'euros, et d'aussi long terme, on cotise à 20 ans, on est retraité à 90, c'est des engagements sur 70 ans. Il n'y a pas besoin d'accumulation financière, contrairement à quelque chose qui est vraiment enraciné, y compris dans notre présentation des choses, c'est que pour prévoir, il faut accumuler. Ben non, pas du tout. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Puisqu'on fait la preuve que ce sont les pays, et pas du tout les derniers villages gaulois, nous sommes très majoritaires. Hein. En Europe, par exemple, la récapitalisation, c'est 12% des pensions, et les réformateurs ont bien du mal d'augmenter ce pourcentage. Il faut partir du constat extrêmement heureux, extrêmement positif, que ce sont les pays qui ont choisi de financer cet engagement massif et long terme que représentent les pensions, sans aucune épargne, qui ont le niveau moyen de pension et la part de pensionnés dans les plus de 60 ans, les meilleurs, hein, meilleurs que les pays qui ont choisi peu ou prou, d'ailleurs aucun pays n'a choisi de passer que par l'épargne, mais enfin qui ont choisi une part d'épargne, pour dire, mais alors, si on peut financer, et si c'est plus efficace, c'est ça l'important, de financer des engagements massifs et de long terme sans aucune accumulation financière, ben, finançons l'investissement sans aucune accumulation financière. En créant, en plus de la cotisation sociale, hein, qui est une ponction sur la valeur ajoutée, qui va à des caisses qui versent du salaire pour les retraités, qui versent du salaire pour les soignants, qui versent des allocations familiales pour les parents, etc., sans aucun taux d'intérêt, puisqu'il n'y a pas eu d'appropriation privée de cette valeur ajoutée. C'est le droit du travail et de la sécurité sociale qui décide de ponctionner 13% du PIB pour des caisses de retraite, par exemple. Eh bien, sur ce modèle-là, créons une cotisation économique, c'est-à-dire décidons par le droit, hein, dans une législation de droit du travail et de la sécurité sociale, de créer une cotisation à hauteur de 25%, parce qu'actuellement, on ne consacre que 20% du PIB pour l'investissement, ce qui est tout à fait insuffisant. Nous sommes dans un sous-investissement catastrophique. Une cotisation qui ponctionnera 25% du PIB, qui ira à du salaire socialisé, ce sera bien un élément du salaire, ce ne sera plus du profit, hein, ça sera ponctionné sur le profit, puisque c'est ponctionné sur la valeur ajoutée au bénéfice du salaire, et ça ira à des caisses d'investissement, tout comme la cotisation sociale va à des caisses vieillesse, et ces caisses d'investissement financeront l'investissement sans aucun taux d'intérêt.
Donc, parce qu'en fait, voilà, pour rebondir sur ce... petit discours. En fait, là, j'ai cru comprendre à la lecture de votre dernier ouvrage que votre credo, je dirais, c'est plutôt de taxer, enfin pas de taxer, d'augmenter les salaires et donc par le même biais les cotisations pour financer donc à la fois le système solidaire de retraite, de sécu, etc. Si j'ai bien compris un petit peu aussi pour l'investissement des entreprises et plutôt que de taxer le capital, comme on entend dire. C'est un peu, j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines divergences ou certaines petite différence d'approche par rapport à d'autres opposants à la réforme qu'on entend dire il n'y a qu'à créer une taxe sur les capitaux. On dirait qu'il y a comme un petit écart là.
Ben oui, nous avons actuellement une exaspération populaire devant les marchés financiers, devant les comportements invraisemblables de tous ceux qui retirent un profit énorme d'activités financières alors même qu'il n'y a pas de prêt réel à l'économie. Cette exaspération, on peut effectivement, je dirais, l'utiliser, et ça va être assez vite populaire, pour dire taxons les profits. pour financer la Sécu.
Profits qui sont quand même taxés en deçà des revenus du travail aujourd'hui.
Mais les revenus du travail ne sont pas taxés, c'est bien ça la question. Et c'est ça le gros danger. Le gros danger d'une formulation qui est faisons cotiser le capital, par exemple, comme nous faisons cotiser le travail. Moi, j'ai vu ça, ça comme formulation. C'est catastrophique. Qu'est-ce que c'est que la cotisation ? La cotisation, comme le salaire direct, comme l'impôt et comme le profit, c'est forcément pris sur le travail, tout. La valeur ajoutée, c'est la valeur ajoutée par notre travail. Bien. Et notre travail va soit à d'autres, c'est-à-dire le profit, soit à nous, c'est-à-dire le salaire. Il peut nous être retourné sous forme de salaire de deux façons. Par le salaire direct, ou alors, qui est une taxation sur la valeur ajoutée, le salaire direct, on taxe la valeur ajoutée pour l'attribuer aux
créateurs de richesse,
à ceux qui l'ont créé. Et tout comme une ponction, le mot taxation est trop fiscal, c'est une ponction sur la valeur ajoutée, tout comme le profit est une ponction sur la valeur ajoutée, tout comme l'impôt est une ponction sur la valeur ajoutée. Donc, pour ponctionner la valeur ajoutée au bénéfice des travailleurs, de ceux qui l'ont produite, vous avez le salaire direct, qui va inclure l'impôt sur le revenu, qui lui permettra de payer les fonctionnaires. Et puis, vous avez la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est une ponction sur la valeur ajoutée qui est calculée en fonction du salaire. Mais ce n'est pas une ponction sur le salaire, c'est un ajout
de salaire.
De salaire sous forme socialisée, calculé en fonction du salaire brut, comme on dit. Pourquoi ? Parce que le salaire brut, c'est ce qui reconnaît des qualifications. Les qualifications des postes dans le privé, qualifications de la personne dans le public. Et si nous ponctionnons la valeur ajoutée sous forme de cotisation qui va socialiser, ça va aller à tout le monde, qui va socialiser cette valeur ajoutée sous forme d'une cotisation calculée en pourcentage du salaire, mais qui est une ponction sur la valeur ajoutée, pas sur le salaire. Il faut arrêter cette confusion absolument destructrice du sens. Ça veut dire que nous affirmons que nous sommes détenteurs de qualifications et que lorsque nous recevons une pension sur ce salaire socialisé, c'est notre qualification qui est reconnue. Lorsque nous utilisons ce salaire socialisé pour payer les médecins, les infirmiers du système, du service de santé, nous affirmons la qualification de ces personnes. Or, affirmer la qualification est fondamentalement anticapitaliste parce que le capitaliste repose sur le déni de qualification. Il ne nous concède que le fait d'avoir un gagne-pain qu'on peut valoriser sur un marché du travail. Il dénie que nous soyons qualifiés, il dénie que la qualification soit notre fait, il dénie que nous soyons les producteurs. Donc, socialiser une partie de la valeur ajoutée sous forme de salaire calculé à partir des salaires directs, c'est-à-dire selon la qualification, c'est absolument fondamental d'un point de vue politique.
Alors, on pourrait peut-être vous objecter, me semble-t-il, que la société a beaucoup changé, que le chômage est plus important qu'il n'a jamais été, que finalement, ces histoires de qualification, ma foi, on n'a pas forcément besoin de qualifications ou de diplômes pour réussir. En réalité, on en a besoin encore plus qu'auparavant, mais que finalement, la société libérale, c'est celle qui promet, la réussite par soi-même, au-delà de l'école, au-delà de l'étude, et que c'est plus son utilité que sa réelle qualification, comme vous l'appelez. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu formel, élitiste, en fait, dans cette approche du salaire. On voit bien, par exemple, que les conventions collectives sont de moins en moins respectées, celles qui garantissent justement un revenu par rapport à un certain niveau d'études.
C'est pas le niveau d'études. Vous avez là uniquement, vous avez la valorisation des acquis d'expérience qui permet de monter en qualification, alors même qu'il n'y a eu aucun passage par l'école. La définition de la qualification des postes inclut le diplôme, mais pas uniquement. Inclut aussi beaucoup d'autres composantes. Et il n'y a rien d'élitiste dans le fait de dire que chacun aura une qualification. Ça peut être la qualification de premier ordre si on distingue, par exemple, 4 niveaux de qualification, une hiérarchie des qualifications de 4 niveaux. Donc tout le monde peut être titulaire d'une qualification comme le sont les retraités, c'est ça. Encore une fois, la retraite, c'est une solution parce que d'une part, ça montre que nous pouvons financer l'investissement sans aucune accumulation financière, en finir avec le droit de propriété lucrative, et que d'autre part, nous pouvons attribuer à tous une qualification, en finir avec le marché du travail. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un retraité du privé qui prend sa retraite ? C'est quelqu'un qui avait jusqu'ici eu des emplois, c'est-à-dire des postes qui étaient les porteurs de la qualification. S'il perdait son emploi, il était à poil. Les droits sociaux dans le marché du travail ont comme support l'emploi. C'est pour ça que nous sommes condamnés à être demandeurs d'emploi. C'est pour cela que nous ne maîtrisons rien du travail, parce que ce sont ceux qui maîtrisent les emplois qui ont toutes les cartes en main, hein, les actionnaires et les employeurs. Notre absence totale de maîtrise du travail, hein, son lieu, sa quantité, qui est titulaire d'emploi, quel est l'objet du travail, comment il est fait, nous n'avons aucune maîtrise, ni individuelle ni collective. Cette absence totale de maîtrise vient du fait que le travail dans une société capitaliste est organisé par l'emploi, par l'existence d'un marché du travail. Et lorsque un salarié du privé prend sa retraite, qu'est-ce qui se passe ? La qualification moyenne de ses postes devient la sienne. C'est lui qui devient titulaire de sa qualification et du coup, il a un salaire à vie. Parce que si il y a des chômeurs, s'il n'y a pas de salaire à vie, hein, s'il y a un salaire à vie, il n'y a plus de chômeurs. Hein. S'il n'y a pas de salaire à vie, d'ailleurs, il n'y a pas de chômeurs chez les retraités. Hein. S'il n'y a plus s'il n'y a pas de salaire à vie, alors, s'il y a emploi, hein, alors il y a chômage. Hein. C'est parce qu'il y a emploi qu'il y a chômage. Alors, hein.
On pourrait vous répondre, s'il y a salaire à vie, pourquoi y aurait-il travail ?
Mais parce que nous aimons travailler. Parce que le travail est une réalité anthropologique fondamentale. Sauf qu'il ne faut pas l'identifier avec ce que le capitalisme fait du travail dans l'emploi, qui là est très souvent mortifère.
D'accord. Je crois que nous allons faire une petite pause musicale et puis reprendre la discussion sur le marché du travail, la problématique des qualifications, après quelques minutes.
Une petite pause.
Voilà.
J'ai bourlingué de par le monde, hardi les gars, ohé les gars. Sur toutes les mers de la map monde, j'ai frôlé mille fois le trépas, ohé les gars. J'ai commandé des brigantines, hardi les gars, ohé les gars. Elles filaient des nœuds les matines, sous le vent, il fallait voir ça. Hardi les gars, ohé les gars. J'ai hissé les focs aux frégates, hardi les gars, ohé les gars. En Chine, on chassait les pirates, quand dites-vous les terres ne va, ohé les gars. J'ai vu les flots du Pacifique, hardi les gars, ohé les gars. Jusque dans les mers antarctiques, j'ai vu se lever la lune, oui, da, hardi les gars, ohé les gars. J'ai subi des grains et tempêtes, hardi les gars, ohé les gars. Coup de vent à vous casser la tête, suivi bientôt d'un calme plat. Oh, et les gars, j'ai connu des femmes blondes et rousses, hardies les gars, oh, et les gars, dans tous les ports, j'eus à mes trousses les prix beauté de ce temps-là, hardies les gars, oh, et les gars. Maintenant je suis vieux et je fume ma pipe, hardi les gars, oh et les gars. Sur les quais je balade ma tripe en regardant partir les autres gars, oh et les gars. Oh vous les jeunes que la mer tente, hardi les gars, oh et les gars. Plutôt mourir dans la tourmente que de crever sur un grabat, hardi les gars, oh et les gars.
Nous voici de retour dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs des précaires sur Paris Fréquence Plurielle, 106.3 MHz, avec Bernard Friot, sociologue et économiste, ou économiste et sociologue. Spécialiste des retraites et du salariat. Donc Bernard nous parlait précédemment de la problématique du marché du travail qui en fait en lui-même est générateur de chômage et ne reconnaît pas à sa juste valeur les qualifications, si j'ai bien compris. Et donc j'aimerais comprendre comment on pourrait éventuellement imaginer une porte de sortie de ce marché du travail qui met les salariés en concurrence, etc., tire le coût du travers le bas grâce à la qualification. Enfin, comment sortir de ce fameux marché du travail?
Mais nous la faisons déjà. Encore une fois, il faut absolument adopter une attitude révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude révolutionnaire? C'est le fait de voir ce qu'il y a déjà de subversif de la logique capitaliste dans la réalité même. Parce que le capitalisme, ce n'est pas un système qui ne changerait que pour perdurer à l'identique. Ce n'est pas une structure de domination qui serait une espèce de broyeuse totalitaire. Le capitalisme, c'est une contradiction au travail. Et il faut savoir lire la contradiction. Et donc, être révolutionnaire, c'est avoir à la fois l'acuité de vision qui permet de voir ce qu'il y a de subversif déjà dans la réalité et l'audace de prolonger, d'aller plus loin. C'est ce qu'a fait le CNR. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil national de la résistance? Quand on regarde par exemple les caisses de sécurité sociale de 1945, quand on fait des monographies, on s'aperçoit que les salariés de ces caisses, les administrateurs pour une part, c'est les mêmes que ceux des assurances sociales de 1930. Le CNR n'a pas fait table rase de quelque chose où il n'est pas parti de rien. Il a su lire ce qu'il y avait de subversif dans les assurances sociales et il en a fait un changement révolutionnaire en allant plus loin avec la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est un changement révolutionnaire. Ce n'est pas une avancée démocratique, comme on le dit de façon trop euphémique. C'est un changement révolutionnaire. L'obstination de la classe dirigeante à en finir, depuis toujours, en est la preuve par l'absurde. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être révolutionnaire? C'est savoir voir que déjà, une partie des travailleurs sont payés par du salaire en dehors du marché du travail.
Les fonctionnaires, c'est ça, par exemple?
Les fonctionnaires ne relèvent pas, surtout les fonctionnaires d'État, parce que dans la territoriale, les maires sont quand même relativement des employeurs, mais les fonctionnaires d'État sont payés pour leur grade, pas du tout pour leur poste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique d'État, même si toute la réforme actuelle vise, évidemment, à créer tout cela, à faire des fonctionnaires des employés, à faire que ce soit leur emploi qui soit le support de leurs droits. Mais le support des droits des fonctionnaires, c'est leur grade, c'est-à-dire leur qualification personnelle. Nous avons donc cette anticipation qu'il faut promouvoir, non pas en disant de façon corporatiste les fonctionnaires ont droit à un statut spécial parce qu'ils ont des missions spéciales, ce qui est quand même une façon de dire que les autres sont des cons. Hein. C'est de dire les fonctionnaires sont l'anticipation de ce qui devrait être le fait de tous, être titulaire de sa qualification. Si bien qu'on n'est plus, encore une fois, en situation de force de travail sur un marché. On est les producteurs. Et la seconde anticipation, ce sont les retraités, encore une fois. Un retraité, quelle est les seules aujourd'hui, on peut dire sans provoque que les seuls travailleurs heureux au travail aujourd'hui, c'est les retraités. Ils le disent.
Mais ils ne travaillent pas tous, les retraités. Il y en a qui se reposent aussi.
Bah, ceux qui se reposent pas forcément plus que des gens qui ont un emploi. Hein. Attention, hein. le travail, il faut pas en avoir une définition essentialiste, hein, et en disant, mais qu'est-ce qu'ils font, ces retraités ? D'abord, ceux qui font rien, en général, sont quand même beaucoup moins dangereux que beaucoup de ceux qui travaillent dans l'emploi. Hein. Ils sont moins dangereux que des profs de mathématiques financières qui foutent le pays à feu et à sang à travers en enseignant comment spéculer, moins dangereux que les conseillers de Sarkozy, moins dangereux que... les gens qui produisent des semences stériles pour Monsanto, etc., etc. Le tiers au moins de ce que nous faisons est contre-productif, dangereux, antidémocratique, etc., etc. Donc, à la limite, ceux qui utilisent leur qualification à ne rien faire sont quand même infiniment moins dangereux que ceux qui travaillent dans des emplois qui sont totalement informés par la logique capitaliste. Mais surtout... hein, Les retraités nous disent qu'ils n'ont jamais, pas tous, hein, pas les 14 millions et demi, hein, parce que certains sont dans la survie, surtout des femmes, hein, avec des petites pensions. Mais ceux qui ont une pension relativement proche de leur meilleur salaire, ceux-là le disent tous. Ils n'ont jamais autant travaillé, ils n'ont jamais été aussi heureux de travailler.
Enfin, pour ceux qui ont la chance d'être en bonne santé, quoi.
Oui, d'accord, mais il y a aussi des actifs qui, à 40 ans, n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Enfin, c'est pas, il faut pas raisonner sur le fait que les retraités sont en vocation à être malades. Nous avons 30 ans de retraite devant nous, ou entre 25 et 30 ans de retraite devant nous, qui ne sont pas entre 25 et 30 ans de maladie pour tout le monde. Les retraités, leur bonheur au travail a un fondement qui est très simple, c'est qu'ils sont payés à vie, ça tombe tous les mois, comme ils disent. Ça tombe tous les mois et ils n'ont pas besoin de passer par le marché du travail pour travailler, ils n'ont pas besoin de passer par l'emploi pour travailler, ils n'ont pas besoin de se soumettre au diktat d'un employeur pour travailler, ils n'ont pas besoin d'être inquiets en permanence pour savoir quel va être le nouvel actionnaire, comment la configuration de la boîte va changer, est-ce qu'elle va délocaliser, etc. etc. Ils n'ont pas à se soumettre à l'entretien individuel annuel où on leur dit « Ah ben votre employabilité, peut-être qu'il faudrait améliorer, etc. etc. » Ils sont débarrassés du marché du travail. Et débarrassons tout le monde du marché du travail et vous verrez que nous serons infiniment plus dynamiques pour travailler parce qu'on travaille mieux lorsque l'on est sûr de sa qualification et ayant les possibilités par le salaire de l'exercer et par l'investissement comme cotisation économique de trouver l'argent pour l'exercer que lorsque l'on est en permanence avec le bâton de l'emploi.
Alors Claude, notre technicien son est tout heureux puisqu'on parle de lui apparemment en ce moment. Une question quand même, alors finalement le travail ce n'est pas tout à fait produire. Selon vous, est-ce que c'est produire et produire comme l'entend Karl Marx, par exemple, ou est-ce que c'est produire comme l'entend la patronne du MEDEF ?
Alors, c'est produire au sens où le travail, c'est la part de l'activité à laquelle nous attribuons une valeur économique. Et l'activité, c'est le fait de produire des biens et services. Mais... la façon dont le capitalisme transforme l'activité en travail, c'est-à-dire attribue de la valeur à une partie de notre activité, est tout à fait prédatrice, effectivement. Parce que dans le capitalisme, le profit ne peut trouver son fondement que dans la production de marchandises selon la loi de la valeur. Et nous sommes là dans la dictature du temps qui fait que le travail aujourd'hui est tellement source de malheur aujourd'hui dès lors qu'il est exercé dans l'emploi. Hein. Mais il ne s'agit pas de renoncer à produire. Hein. Mais sauf que le mot produire ne veut pas forcément dire produire des milliers de kilomètres d'autoroute ni encore une fois des semences non reproductibles. Produire, c'est ce que font précisément les retraités.
Et donc dans une société donc, débarrassée de ce marché du travail qui crée du stress, de la souffrance au travail, enfin de la précarité, du chômage, etc. Comment on ferait pour donner du travail à tout le monde ? Puisque jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce sont les employeurs, les patrons qui distribuent, selon leur bon vouloir, les postes de travail. Comment faire pour sortir de ça, en fait ?
Il faut d'abord ne plus parler de donner du travail.
Oui, Et c'est-à-dire, il faudrait leur enlever ce pouvoir. Enfin, les...
Ah, mais il faut bien distinguer la fonction d'employeur et la fonction d'entrepreneur. Que tout travail, qui est une activité collective, forcément, le travail individuel n'existe pas au sens strict, hein. Que tout travail qui est une activité collective suppose, et puis avec des échéances, avec des contraintes, avec des obstacles à surmonter, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt du travail, hein. Le travail, c'est quand même se colleter avec une altérité qui comporte des contraintes. Tout travail supposant donc une activité collective, qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y ait une délibération sur les fins et les moyens, avec une hiérarchie chargée de s'assurer que ce qui a été défini est mené à bien. Ben, tout à fait, bien sûr, cette hiérarchie peut être élective. Enfin, nous avons déjà bien des exemples au demeurant, hein. Nous ne partons pas de zéro dans ce mode d'organisation. Autre chose, et il faut aussi, il faut des gens, il y a des gens d'ailleurs, hein, qui aiment diriger des équipes et qui le savent, d'autres qui ça ne les intéresse pas, qui aiment créer du neuf, bon, d'autres moins. Bon, donc bien sûr que les fonctions d'initiateur, d'innovateur, d'entrepreneur, d'animateur, de collectif, tout ça sont des fonctions absolument légitimes. En revanche, la fonction d'employeur, elle doit disparaître. Parce qu'elle est à la source de notre impossibilité de maîtriser le travail. Encore une fois, l'employeur, c'est celui qui décide des emplois, c'est-à-dire du fait que ce sont les postes de travail qui sont le support des droits. Hein. C'est ça qui doit absolument disparaître. Et de fait, lorsque chacun sera le support de sa qualification et donc de son salaire, avec un salaire à vie qui ne pourra jamais disparaître, qui pourra progresser au fur et à mesure qu'il passera des épreuves de qualification, mais qui ne pourra jamais ni diminuer, ni a fortiori disparaître, et qui progressera jusqu'à la mort, parce que ce sera un droit politique, qui ne sera pas lié à ce que fait la personne, mais à ce qu'elle est, hein, au sens de ce qu'elle est dans le rapport au travail, hein, au sens de, à un moment, un certain niveau de qualification lui a été reconnu par des pairs, par un jury, par une performance qu'elle a produite, enfin je ne sais trop quoi, tout ça, et nous avons déjà avec la VAE, je le rappelle, des éléments anticipateurs de ces affaires.
Validation donc des acquis de l'expérience.
Oui, validation des acquis de l'expérience, qui est... très insuffisamment utilisée, et pour cause, hein, puisqu'elle a aussi des dimensions anticapitalistes. Lorsque nous sommes dans cette logique d'attribution à chacun d'une qualification, l'entreprise n'est plus le fait de l'employeur, hein. L'entreprise devient la synergie de qualifiés qui, bien sûr, vont confier à une hiérarchie le soin de vérifier l'application des décisions collectives, mais et qui, peut-être, une partie, tel ou tel de ces qualifiés, on lui dira, bah, écoute, non, ce que tu fais ne correspond pas du tout à ce que nous avions convenu, va faire valoir ta qualification ailleurs. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas là d'un employeur qui licencie, puisque la personne s'en va avec sa qualification et avec son salaire. Elle n'a pas fait affaire là où elle est, mais elle va pouvoir le faire ailleurs. Hein.
Donc si on prend l'argumentaire là, développé, autant les créateurs de la sécurité sociale s'étaient appuyés sur les assurances qui existaient avant la guerre pour développer un système qui, en quelque sorte, était déjà subversif à l'intérieur du système capitaliste. Absolument. Dans lequel nous vivons. Autant là, par exemple, dans l'entreprise, pour la rendre plus démocratique ou la faire se comporter comme dans le sens de l'intérêt général, il faudrait s'appuyer sur des structures type, par exemple, comité d'entreprise, ce genre de choses, de leur donner plus de pouvoir, plus de droits pour...
Mais non, pas plus de pouvoir. Mais non, nous faisons ça depuis 50 ans et nous voyons que là, nous sommes dans l'impasse. Il ne s'agit pas de leur donner plus de pouvoir. Il s'agit de s'appuyer sur l'expérience qu'ils représentent pour aller plus loin, qui n'est pas le plus de pouvoir au CE. Ça, nous voyons bien que ça ne donne rien. Nous heurtons à un mur à l'heure actuelle. Plus de pouvoir au syndicat dans l'entreprise, on se heurte à un mur. Le mur, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune maîtrise de l'investissement et qu'il n'y a aucune maîtrise du travail, puisque par structure, dès lors que c'est le poste qui est qualifié, vous pouvez donner tous les droits que vous voulez aux travailleurs, ils reposent sur un déni de leur qualification qu'ils ne pourront jamais surmonter. Donc il s'agit d'utiliser bien sûr les anticipations que représentent les droits des travailleurs dans les CE et autres, et encore une fois l'anticipation que représente le fait que les retraités ont un salaire à vie, pour aller plus loin en disant nous supprimons le marché du travail en affectant à chacun une qualification. Parce que, par exemple, un mot d'ordre comme « supprimer le chômage », par exemple, joint avec un mot d'ordre « plein emploi », c'est une juxtaposition absurde. Supprimer le chômage, ça veut dire supprimer l'emploi. Puisqu'il n'y a de chômage que parce qu'il y a de l'emploi. C'est pas faute de plein emploi qu'il y a du chômage. C'est parce qu'il y a de l'emploi, qu'il soit plein ou pas, qu'il y a du chômage. Dès lors que les individus sont titulaires de leur qualification, il n'y a plus de chômage. C'est parce qu'ils ne le sont pas qu'il y a chômage. Et je voudrais vraiment bien remettre en perspective statistique les choses. Nous sommes aujourd'hui plus proches du plein emploi que pendant les 30 Glorieuses. Est-ce que vous savez que dans les 30 Glorieuses, prenant le recensement de 62, le taux d'emploi des 20-60 ans, avant 20 ans on est à l'école, après 60 ans on est en retraite, le taux d'emploi des 20-60 ans était de 67%, alors qu'aujourd'hui, il est de 76%. Quand on parle du plein emploi des 30 Glorieuses, c'est le plein emploi des hommes. Donc, nous sommes plus proches quantitativement du plein emploi. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des chômeurs? Mais évidemment que quand il n'y avait ni UNEDIC, créé en 58, ni ANPE, créé en 67, il n'y avait pas de chômeurs. On ne pouvait ni s'inscrire comme chômeur, ni avoir d'indemnité. Mais ne confondons pas la fièvre et le thermomètre. L'UNEDIC et l'ANPE ont révélé le sous-emploi. Et de même, si on s'interroge non plus quantitativement, mais qualitativement au plein emploi, nous sommes plus proches du plein emploi aujourd'hui. La part des petits boulots dans l'emploi est plus faible que dans les années 50. Les boulots à temps partiel, les boulots à durée déterminée, les types intérim, etc. L'intérim, escalité n'existait pas, mais il y avait des ersatz d'intérim. Tout cela était plus important dans l'emploi total dans les années 50 qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons un thermomètre du mauvais emploi. Parce que nous avons créé une norme de l'emploi stable, le CDI. Mais le CDI date de quand ? 1974. Et c'est après que, pour donner un cadre juridique aux écarts à cette norme, il a fallu créer le CDD, il a fallu légiférer sur l'intérim, il a fallu créer un cadre juridique du temps partiel. Mais ça n'a pas créé le mauvais emploi, ça l'a révélé. Donc nous sommes plus proches du plein emploi et c'est pour cela que le travail est dans la merde. Parce que plus nous sommes proches du plein emploi, plus nous abandonnons aux actionnaires et aux employeurs le soin de décider du travail. Et ce qu'il faut, c'est donc pas, donc, dans le cadre d'une logique qui reste celle d'un marché du travail et d'un marché des capitaux, y compris en l'ayant moralisé par un pôle public bancaire, mais qui ne gérera qu'une partie du crédit et qui du coup permettra au marché des capitaux de se spécialiser dans le plus rentable en laissant au pôle public le soin de gérer, de socialiser les pertes, c'est ce qu'on observe depuis toujours. Non, il s'agit de faire valoir, et c'est ça une démarche révolutionnaire, de faire valoir ce qu'il y a de subversif dans le salaire à vie des retraités, dans la cotisation sociale, pour dire débarrassons-nous du marché du travail, débarrassons-nous du marché des capitaux, et alors nous allons trouver la maîtrise de l'investissement et du travail, et c'est là que les droits des travailleurs trouveront à s'exprimer réellement. Bien sûr qu'il faut augmenter leurs droits, mais cette augmentation n'a de sens que si elle se fait sur la base de l'abrogation du marché du travail et du droit de propriété lucrative.
Donc là, l'émission touche à son terme, donc on pourrait peut-être terminer par une toute dernière question. Au vu de l'actualité, que dire du mouvement social, que dire de cet aspect quand même quelque part défensif et qu'on on perçoit la victoire en fait assez difficilement là, enfin, à l'air du temps, même si quand même le mouvement monte en puissance. Que dire de la difficulté des syndicats, des acteurs sociaux à contrer en fait ces contre-réformes?
Mais la difficulté, la mobilisation est réelle, hein, mais en même temps, on la voit bien dans l'importance des manifestations, mais en même temps, il y a une forme de défaitisme autour, de scepticisme sur est-ce qu'on peut vraiment changer, hein. Eh bien, cette difficulté et le côté effectivement défensif des revendications. Je rappelle par exemple que nous en sommes à revendiquer 75% du net à 60 ans, alors que nous avons toujours revendiqué 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net. C'est-à-dire quelle intériorisation nous avons faite des reculs. Mais cette difficulté à être à l'offensive a, à mon avis, son origine dans une vision non dialectique de la réalité, dans le fait que nous ne sommes pas dans cette posture révolutionnaire qui consiste à dire « mais il y a déjà du subversif dans le réel et nous pouvons le porter plus loin ». Si nous savons lire la répartition non seulement comme un truc qu'il faut défendre contre la capitalisation, mais comme quelque chose qu'il faut étendre au financement de l'investissement, si nous savons lire le salaire à vie des retraités, non pas comme le salaire d'activité utile, mais comme le salaire d'un travail qui du coup peut se substituer à l'emploi comme matrice du travail, alors nous, effectivement, nous sommes toujours à la défensive. Pour être à l'offensive, il faut adopter cette attitude révolutionnaire.
Donc, d'une certaine façon, l'espoir est permis, l'espoir est devant nous, et la révolution est devant nous. Donc, je remercie...
Non, elle n'est pas devant nous, elle est aujourd'hui.
Il
c'est
aujourd'hui,
ça qui est très
oui,
important. Parce que sinon, si c'est toujours demain, c'est là qu'on entretient le pessimisme.
Disons qu'il manque juste à le faire pénétrer dans plus de têtes
oui,
que ciné aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, je remercie chaleureusement Bernard Friot et mes acolytes, donc Ludovic.
Merci.
Et Claude. Et donc, je signale juste que le 23 septembre, il y a une journée de grève et de mobilisation contre donc cette réforme ou contre-réforme du gouvernement Sarkozy, Fillon, MEDEF, etc. Que par ailleurs, Bernard Friot animera plusieurs conférences, dont je signale par exemple une le 27 septembre au gymnase situé la rue Repsol, Balzan, métro Sentier, à Paris, à l'invitation d'un collectif de lutte contre la réforme des retraites. Par ailleurs, il sera au CICP, situé au 21 rue Voltaire, dans le 20e arrondissement, à 20h le 6 octobre prochain. Voilà, donc bonne soirée à tous. L'émission sera diffusée mercredi prochain de 7h à 8h sur Paris Fréquence Plurielle 106.3. Bonne soirée et bonne continuation dans la lutte.
Bonsoir.